France Inter.
Vous goûtez comme ça?
Oui, bien sûr.
Mmh, c'est bon.
Chardonnay, Pinot Noir, Grenache, Merlot, je pourrais en citer encore des dizaines et des dizaines. Ce sont en fait des variétés différentes de raisins qu'on appelle aussi cépages.
Par exemple, si je te dis framboise, cerise bigarro, pruneau, fève tonka et betterave crue, tu me réponds Merlot.
Même si on les appelle internationaux parce qu'ils sont exportés dans plein de pays.
On va commencer par ce qu'il y a de plus simple, un monocépage.
L'avantage du monocépage, c'est qu'il représente une expression presque pure du terroir. Quand on a une seule variété de vigne, on sent davantage les spécificités du millésime.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Vous les connaissez tous par leur nom, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Syrah, ce sont les cépages, ces variétés de raisins qui font la renommée du vin français et qui se sont implantées dans de nombreux vignobles dans le monde. Seulement voilà, comment le Gamay a vu le jour? Pourquoi le Merlot a un tel succès en France? Le Cabernet Franc et le Cabernet Sauvignon ont-ils un lien de parenté? On va vous raconter l'étonnant destin des cépages français avec José Vouillamo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes suisse?
Je suis suisse.
Vous vivez où en Suisse?
À Sion, dans le Valais, entouré de montagnes et de vignes.
Ah là 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 là, quelle région! Vous êtes biologiste, généticien de la vigne de renommée internationale. Vous avez coécrit Wine Grapes, qui est le livre référence sur tous les cépages cultivés dans le monde. Et vous signez un livre que je tiens, que je brandis de la main droite. Grand cépage d'origine française. Histoire, généalogie et vin aux éditions Favre. Ce sont des amis éditeurs de Suisse, hein. Un ouvrage passionnant, fourmillant d'anecdotes et de découvertes sur la génétique des cépages. On va en apprendre grâce à vous. On va déguster également quelques cuvées étonnantes que vous avez sorties, je crois, de votre cave, José. Vous nous les avez apportées, elles ont fait le voyage avec vous. Et il y en a deux qui sont très impatients de découvrir les cuvées que vous nous avez apportées, évidemment, nos deux spécialistes du vin, qui sont mobilisés pour cette émission, Justine Knapp et Jérôme Gagnez. Salut les copains.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Justine.
Un vieux millésime, très bon millésime que j'ai apporté. Le bouchon a cassé, mais tout s'est bien terminé.
Ah oui, mais il y a les bouchons qui cassent un peu
ce
évidemment,
matin.
Parce qu'on a aussi de vieux millésimes, mais c'est une très belle surprise que vous allez nous faire goûter, Justine, dans le courant de cette émission. Jérôme.
Un cépage emblématique dans une expression très originale.
Ah, vous la jouez à l'aveugle?
Tout à fait, monsieur.
Vous êtes d'humeur joueuse aujourd'hui?
Oui.
Eh bien écoutez, on va rigoler. Et puis on
prêt à me faire humilier par José en dégustation.
Oui, parce que la réciproque va être vraie, vous allez voir. Et puis on est ravis d'accueillir également dans cette émission notre chef chroniqueuse Manon Fleury. Bonjour Manon.
Bonjour François-Régis. Aujourd'hui on va évidemment parler de vin, mais pas seulement celui qu'on boit, celui qu'on cuisine, qu'on fait réduire et parfois même qu'on nous servir avec du poisson.
Stratégie hautement intéressante de Manon Fleury dans un instant. Vos remarques et vos questions sont les bienvenues. Réagissez en direct sur notre mail. On va déguster à radiofrance.com. Amis auditeurs, retrouvez tous nos podcasts, les podcasts de toutes les chroniques et tous nos contenus, recettes, adresses, infos pratiques sur radiofrance.fr à la page. On va déguster.
France Inter, François-Régis Gaudry, on va déguster.
Ils sont 12. Ce sont un peu les 12 apôtres de la viticulture française, 12 cépages, 12 variétés de raisins d'origine française, très présents dans les vignobles de l'Hexagone et devenus de véritables ambassadeurs du vin à l'échelle mondiale. Alors on les cite ensemble. José Vouillamo, il y en a, je les ai bien comptés, 7 rouges et 5 blancs. Commençons par les 7 rouges.
Tout à fait, 7 rouges, 5 blancs. Il faut dire qu'au départ, je voulais n'en prendre que 10, mm-hmm. parce qu'on voulait faire un ouvrage grand public, accessible à tous.
Le top 10.
Avec voilà, le top 10, ça résonne. Et il y en a deux que j'ai rajoutés par affection cordiale que j'ai pour ces cépages. Alors, dans les rouges, on a le Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, bien entendu, la trilogie. On a le connu sous le nom de Malbec. On a le Gamay, le Merlot, le Pinot Noir et la Syrah.
Ça, c'est les rouges. Ça, c'est les 7 rouges.
Voilà, et en blanc, Chardonnay, bien entendu, Chenin blanc, Sauvignon blanc, et puis les deux que j'ai rajoutés, c'est le Savagnin et le Viognier.
Alors, ces 12 cépages rouges et blancs ont pour point commun d'être d'origine française, même si on va voir que l'origine est un peu subtile ou complexe pour certains d'entre eux. Oui. Et ils sont également des cépages emblématiques qui connaissent quand même ont connu un certain essor dans la viticulture française et qui, par ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, ont connu une véritable conquête du monde. Hein. Ça a été, y a eu un impérialisme de ces cépages français dans les vignobles du monde entier.
Absolument, le Cabernet Sauvignon est le cépage rouge le plus planté au monde, mm-hmm. le cépage pour faire du vin le plus planté au monde actuellement.
C'est absolument incroyable. Alors, ils sont 12. Les deux que vous avez rajoutés, vous ne l'avez pas fait que par affection. Ce n'est pas uniquement un choix subjectif.
Non, pas du tout. C'est parce qu'il y a des histoires fabuleuses à raconter à leur sujet. Le Savagnin, qui est un cépage très ancien, a une histoire folle. Et puis le Viognier, qui a été ressuscité de son terroir de Condrieu par l'acharnement de vignerons, c'est tout à fait admirable.
Un tout petit point sur votre métier, qui n'est pas si courant que ça, vous êtes empélologue. Alors, pour ceux qui ont fait des langues anciennes, le grec empélos, c'est un plant de vigne. Vigne, jusque-là, on comprend. Empélologue, c'est celui qui étudie la vigne, à ne pas confondre avec un autre métier très proche qui est l'empélographe. Expliquez-nous la nuance entre les deux disciplines.
Oui, graphine, ça veut dire décrire. Donc l'empélographe, c'est celui qui décrit la vigne, effectivement.
Dans sa morphologie.
Pour la morphologie, on décrit les cépages, on fait plein de mesures sur les nervures, sur la forme des feuilles, des bourgeons, etc. Ça, c'est l'empélographie. Moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est, au sens large, l'empélologie, donc l'étude des cépages sous toutes leurs coutures, non seulement génétiques, mais aussi historiques, et par rapport au terroir et au patrimoine qu'elles représentent.
C'est ce qui vous amène justement à étudier, et c'est ça qui est absolument passionnant, et en plus vous avez le don de raconter ça à la manière d'un romancier, l'analyse géologique, botanique, des cépages, d'où viennent-ils, comment ont-ils été inventés, comment ont-ils connu un tel essor, et c'est ça qui est passionnant, et vous avez été beaucoup aidé, puisque vous êtes généticien et biologiste, évidemment par les découvertes récentes autour de l'ADN, la génétique de la vigne a vraiment évolué.
Absolument, c'est quelque chose qui n'existe que depuis les années 90 pour la vigne. Et on a fait des découvertes complètement insoupçonnées. On parlera tout à l'heure de quelques exemples où la génétique nous permet de comprendre non seulement l'origine du cépage, mais aussi quels sont les liens entre les régions, entre les personnes. Donc il y a un aspect génétique et historique. Quand on met les deux ensemble, ça devient passionnant, vraiment fascinant.
Ah, mais c'est vraiment, vous allez nous raconter des histoires tout à fait passionnantes. Alors avant même de brosser justement le portrait de certains de ces cépages, et de décrypter leur généalogie, on va quand même commencer par le début, en tentant de définir la notion de cépage de façon très prosaïque. On pourrait dire qu'un cépage, je l'ai déjà dit au début de cette émission, c'est finalement une variété de raisins. Mais une fois qu'on a dit ça...
C'est une question qui peut faire sourire, en particulier des vignerons qui me disent « Ah, c'est pas à moi que tu vas apprendre ça quand même !» Eh ben si, vignerons, quand je demande, alors avec grand respect pour les vignerons, mais quand je demande pour toi un pinot noir, pinot gris, pinot blanc, c'est quoi? Il va me dire « C'est trois cépages !» Et je dis « Bah pour moi, non. Tu verras pourquoi, parce que pour moi, c'est un seul et même cépage qui a eu des accidents de son parcours de vie, qu'on appelle des mutations génétiques, qui lui ont changé la couleur. Mais à la base, on a un seul raisin, pinot noir, qui est devenu parfois gris, parfois blanc. Et j'en veux pour preuve, dans mon bouquin, j'ai une image avec une grappe dans laquelle on a les trois couleurs. Alors, on a des baies qui sont noires.
Extraordinaire.
On est des baies grises. Bah, Jérôme Gagnès, vous nous la décrivez, cette photo. On est page 14 de votre livre, parce que précisons que c'est un livre qui est tout à fait encyclopédique, avec des schémas, des gravures des différents cépages, parfois même des arbres généalogiques, des commentaires de dégustation sur certaines cuvées tout à fait étonnantes, en termes d'assemblage ou en termes aromatiques. Mais alors cette photo, c'est vrai qu'elle est tout à fait surprenante. Pourquoi, Jérôme ?
Elle est extraordinaire parce que bon, on voit cette grappe de pinot, donc qui est une grappe qui est avec des qui est plutôt assez serrée. Hein, les grains sont un peu serrés et on y trouve tout un tas de nuances de couleurs. Et c'est vrai en particulier vraiment le gris, un noir bleuté un peu, qui est la couleur du pinot noir, et puis du blanc. Et vraiment des cépages qui sont, enfin donc un jaune doré un peu. Et c'est J'ai jamais vu ça dans aucune vigne, moi.
On a
l'impression de voir ça, c'est extraordinaire.
On a l'impression d'une grappe presque mutante, qui comporterait différentes variétés de raisins au sein de la même rafle, en fait.
À l'inverse, ça démontre que ça ne peut pas être trois cépages différents.
Mmh. Oui,
on ne peut pas avoir trois cépages dans la même grappe.
Donc, alors, objectivement, on est sur une grappe de pinot noir.
Absolument, qui vient des Grisons, d'ailleurs, en Suisse.
Oui, absolument. Vous l'avez prise en photo dans les Grisons.
Voilà. C'est Martin Donatch, un producteur, qui me l'a envoyé.
D'accord.
Voilà. Mais on peut poser la question autrement. Comment naît un nouveau cépage ? Et là, c'est une génétique qui est tout à fait proche de la génétique humaine. Tout simplement, pour avoir un nouveau cépage, il ne suffit pas d'avoir des mutations. Parce que les mutations peuvent affecter la taille des grappes, la couleur, la précocité, un peu le goût, la qualité. Mais où est-ce qu'on met le curseur ? Où est-ce qu'on met la limite ? Mais la limite, c'est que pour avoir un nouveau cépage, il ne faut pas accumuler des mutations, ça ne suffit pas. Il faut passer par la fécondation, il faut avoir une nouvelle génération. Il faut un cépage père, un cépage mère, il faut du pollen qui passe sur un pistil, comme dans toutes les fleurs, qu'on ait une graine qui pousse, et puis là, on a la nouvelle génération, on a un nouveau cépage. Et la naissance d'un nouveau cépage, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant, parce que c'est très simple d'avoir un insecte ou du vent qui pollinise un peu tout et n'importe quoi chaque année, sachant que la fleur de vigne, si vous regardez une fois au mois de mai ou juin, vous regardez une grappe de vigne en fleur, ce qu'on appelle une inflorescence, on voit des petites fleurs, on voit les
vitamines. Il y a des centaines de fleurs sur la grappe.
Voilà, on voit le pistil.
Qui seront autant de grains de raisin.
Autant de grains de raisin, exactement, qui a tendance surtout à s'auto-féconder. Donc c'est le pollen de la propre fleur qui tombe sur le pistil en général. Sinon, on n'aurait pas de vendange toutes les années. Mais quand c'est une fécondation croisée, pardon, quand vous avez un cépage qui féconde un autre, il faut déjà attendre que le pépin soit tombé à terre ou mangé par un oiseau avant d'être vendangé. Donc on limite déjà les possibilités. D'une fois qu'il est tombé à terre ou déféqué par un oiseau, puis qu'il pousse au milieu d'une vigne, il faut qu'il ne soit pas arraché, ce qui n'arrive plus de nos jours. On veut que ce soit tout propre en ordre, hein. Pas qu'en Suisse, même partout. Donc on risque de l'arracher. À l'époque, toutes les vignes étaient plantées en foule, donc on avait un petit peu un enchevêtrement de cépages. Il y avait jusqu'à 40 cépages dans la même vigne.
On appelle aussi la complantation.
La complantation.
C'est-à-dire plusieurs variétés de raisins au sein d'une même parcelle, et ça provoquait des hybridations naturelles.
Oui, exactement. Et là, pour tous les cépages que j'ai cités, les 12 qui sont là, mais pour tous les cépages traditionnels que nous connaissons, ça s'est passé comme ça. Il y a un pépin qui a poussé, il y a un vigneron qui ne l'a pas arraché, qui a attendu que ça fasse des raisins, en se disant « Ouh, mais c'est sympa, ça, j'ai envie d'en avoir plus », donc il aura fait des boutures, comme un jardinier fait des boutures. Et puis il faut que le voisin l'observe en disant « Mais c'est intéressant ce que t'as là, moi j'aimerais la même chose, tu m'en passes. » Et puis tout le village en plante, toute la région, et dans le cas du Cabernet Sauvignon, le monde entier. Et tous les cépages qu'on connaît aujourd'hui, qui sont traditionnels, sont nés comme ça.
C'est absolument stupéfiant d'imaginer ça. Et c'est-à-dire que c'est le travail de la nature, ces hybridations, ou c'est peut-être aussi une sélection de cépages d'origine humaine avec un vigneron plus ou moins fou qui, à une époque, a l'idée de faire se marier un papa, une maman pour obtenir une nouvelle variété de raisin. C'est-à-dire, il y a l'intention du vigneron, il y a le travail de la nature, mais il y a aussi de temps en temps l'intention d'un vigneron, d'un cultivateur.
Oui, mais c'est assez compliqué de faire une fécondation artificielle chez la vigne. Il faut comprendre comment ça marche. Déjà, il fallait savoir que la vigne avait des fleurs dans lesquelles on avait des organes mâles et des organes femelles, ce qui n'était botaniquement pas très connu avant Linné, par exemple. Donc on parle du milieu du 18e siècle. Et puis les premiers croisements qui ont été faits sur la vigne, c'est le début du 19e siècle. Donc tous les cépages qui datent d'avant le 19e siècle, c'est-à-dire tous ceux que j'ai cités, sont nés de manière spontanée dans les vignobles.
Et pourquoi on a l'impression, pourquoi il n'y a plus de cépages récents ? On a l'impression que la découverte de cépages s'est en quelque sorte un peu stabilisée, arrêtée. Alors que l'histoire de la vigne est jalonnée par justement ces inventions de nouvelles variétés de raisins.
C'est justement par le fait que les vignes ne sont plus plantées en foule, elles ne sont plus complantées, mais elles sont plantées en rang serré avec le même cépage. C'est devenu de la monoculture, du monocépage. Et alors on peut imaginer que dans une vigne de Pinot, un cep à droite féconde un cep à gauche, mais ça reviendra au même qu'une autofécondation. Donc il n'y aura pas de différence, il n'y aura pas cet intérêt-là. Et puis, encore une fois, si un pépin tombe au milieu des rangs de vignes, eh bien, il sera désherbé comme tout le reste.
Comment expliquer, José Vouillamo, le leadership français en termes de cépage ? Pourquoi le terroir français concentrerait autant de stars qui
se sont exportées ?
Qui sont exportées, oui, qui sont parties à la conquête du monde.
Quand on regarde la plupart des appellations françaises très très connues dans le monde entier, que ce soit en Bourgogne ou à Bordeaux, je mets une petite parenthèse sur l'Alsace qui utilise les noms de cépages, mais les appellations n'utilisent pas les noms de cépages. utilise la région. Le cépage était un vecteur de l'expression régionale. Et quand les nouvelles régions, dont le Nouveau Monde en particulier, ont commencé à vouloir planter de la vigne, eh bien, ils ont dû se fournir en matériel. Et en se fournissant en matériel, on leur a donné des cépages avec des noms. Comme ils n'avaient pas de lieu connu, maintenant Napa Valley, bien entendu, c'est devenu connu, Oregon, etc. Eh bien, ils ont donné au vin le nom du cépage. C'est ce qui a été fait dans beaucoup de régions. Aussi en Suisse, historiquement, on l'a fait également. C'est ça qui explique. Et quand ça a été fait, eh bien, la France était déjà, depuis plusieurs siècles, la référence mondiale en matière de vin de qualité. Donc c'était le Graal qu'on voulait atteindre, c'était faire du vin à la française. D'ailleurs, je pense que Jérôme, vous le savez, en Californie, on a très longtemps usurpé les noms.
Chablis Champagne, c'est un combat de très longue date des Champenois pour faire reconnaître la spécificité du Champagne comme étant provenant de Champagne. Chablis, aux États-Unis, a très longtemps, je crois encore un peu, c'était un terme générique pour désigner un vin blanc. I would like to have some Chablis, ça voulait dire je voudrais un verre de vin blanc.
Mais c'est vrai qu'on entend aussi beaucoup désormais dans les établissements du monde entier Shiraz, Cabernet Sauvignon, Chardonnay.
Chenin Blanc. Sauvignon Blanc.
Sauvignon Blanc. Absolument. On va poursuivre évidemment l'exploration des cépages français. Vous êtes passionnant. C'est Laurent Thomas qui réalise l'émission avec Noé Chaban, Fabrice Rivaud pour la prépa et l'organisation de l'émission. Dans un instant, on va brosser le portrait de certains cépages, sans oublier de les goûter évidemment. Et on va commencer par le cépage le plus planté en France. Lequel, à votre avis ? Réponse. Juste après, t'as le vin, t'as pas le vin, Bertrand Belin. Vous êtes bien sur France Inter.
T'as le vin, t'as pas le vin, dis-moi où je te saigne, où tu préfères les arbres noirs dans l'ardoise, moi dans un dernier ciel, tu veux rester voir ça. C'est la jolie maison qui nous a d'abord plu. Mais c'était l'été et le bord de l'étang était net. Or désormais s'y amassent les peaux mortes des saules, les métaux de lambeaux de chandail. Et tes mots portent le sceau de mes mots méchants et de mes failles, le sceau de mes failles.
Les grands cépages français au menu dont va déguster l'émission gastronomique de France Inter, et commençons par le cépage le plus connu, mais aussi le plus planté dans le vignoble français. Un cépage qui par ailleurs a colonisé de nombreux vignobles à travers le monde. Je veux donc parler du...
Cabernet Sauvignon ?
Non.
Merlot ?
Oui !
Oh.
On n'est pas loin, Justine, mais c'est absolument...
C'était un des deux, hein.
Oui, c'était un des deux.
Ça commence.
On a eu une chance de Justine. C'est gentil d'avoir commencé, tu m'as donné la bonne réponse.
On commence par le Merlot, 117 000 hectares en France, 266 000 hectares dans le monde. Alors, c'est pas le cépage le plus planté dans le monde, puisqu'il y a le Cabernet Sauvignon.
Oui, qui a 320 000 ou 340 000, je ne sais plus. Mais il est dans le quintet de tête.
C'est ça. Pourquoi, José Vuillamo, le Merlot a connu un pareil destin ?
Le Merlot a une histoire absolument fascinante. Parce que si vous regardez un petit peu les documents, avant les années 50, on n'en parlait pas beaucoup.
Oui.
Et les appellations très très connues dans lesquelles on trouve le Merlot, en France en particulier, qui sont Pomerol, Saint-Émilion, pour n'en citer que deux, avant les années 50, on n'en parlait pas beaucoup non plus. Et cette histoire, elle est assez fascinante parce qu'il est né d'un croisement qui a été découvert par la génétique.
Absolument, et en plus c'est une découverte assez récente, Cocorico d'ailleurs, enfin Cocorico, là je me mets du côté de moi français, je rappelle que vous êtes d'origine suisse, mais c'est vrai que c'est une équipe française, avec l'INRAE de Montpellier qui en,
Jean-Michel Boursicot.
Oui,
voilà,
oui,
qui en 2008 a trouvé enfin la résolution d'une énigme qui correspond à une véritable enquête policière. Hein.
C'est une enquête policière, oui, ça, on devient des Sherlock Holmes de la vigne, effectivement. Oui, Jean-Michel Boursicot et son équipe, entre autres avec Thierry Lacombe, ont réalisé beaucoup de travaux que je cite dans mon ouvrage. Et l'histoire du Merlot est fascinante parce qu'en 1996, ils étaient à Saint-Suliac, pas loin de Saint-Malo, où ils faisaient des prospections et dans une forêt, ils ont retrouvé une relique d'une vigne abandonnée. Ils l'ont appelée la vigne de Saint-Suliac ou la vigne Sulia 16, sans savoir ce que c'était. Moi, j'avais déjà d'ailleurs vu passer le profil ADN, je me suis dit, tiens, je vais voir si dans ma banque de données, j'ai une correspondance. Non, ça ne correspond à rien, c'est resté un peu en suspens. Et quelques années plus tard, entre 2004 et 2007, ils en ont trouvé quatre autres treilles, des vieilles treilles poussées contre des fermes, dans les Charentes, avec le même ADN. Ils se sont dit, mais c'est quand même bizarre. Et encore quelques années plus tard, Olivier Yobrega, de l'Institut de la vigne et du vin de France, en a retrouvé dans le Gers, trois treilles. Et la plupart des gens disaient, oh ben ça, c'est le raisin de la Madeleine. Parce que la Sainte-Madeleine, au 22 juillet, en général, il est presque mûr. C'est tout ce qu'on savait. En faisant l'ADN, donc déjà, on avait un cépage quasiment disparu. 8 exemplaires en France et dans le monde. C'est vraiment rien. Non seulement c'était ça, mais c'était aussi le chaînon manquant de la parenté du Merlot. On savait que le Merlot avait un lien de parenté avec le Cabernet Franc, ce qui n'est pas très étonnant, il fait partie de la même famille
botanique. Vous êtes en train de dire donc que le Cabernet Franc, c'est l'un des parents du Merlot.
Oui. Et l'autre, on avait un point d'interrogation. Et la chance a été du côté des généticiens, puisque ce cépage a été le chaînon manquant. Donc ils l'ont baptisé la Magdeleine Noire des Charentes. Et cette Magdeleine Noire des Charentes est absolument incroyable, puisqu'il n'en existait pratiquement plus aucun exemplaire. Et elle a donné naissance aussi à un autre cépage dont je parle dans le livre, qui s'appelle le Caux. Et chaque fois que je parle du Caux, les gens disent « Mais quoi ?» Ben, le Malbec. Ah oui, le Malbec. Ah ouais.
Là, on parle du cépage emblématique de Cahors, notamment, voilà, hein, le Malbec.
Tout à fait. Et qui était aussi un cépage emblématique de Bordeaux. Hein,
absolument.
En fait, avant les années 50. Hein, on en trouvait beaucoup à Saint-Émilion et Pomerol. On en trouvait beaucoup sur les rives en Côte de Bourg, notamment vers Blaibourg. On en trouvait beaucoup
oui,
là.
Exactement. Mais il a beaucoup disparu. Ouais. Pourquoi ? Eh bien, c'est peut-être pour la même raison pour laquelle le Merlot a été largement planté. On se souvient du gel terrible de 1956.
Et oui.
Et le Merlot a été favorisé pour deux raisons. La première, c'est qu'il est précoce, qui donne des vins avec une belle rondeur, qui assouplit pas mal les assemblages. Et la deuxième, c'est que le Merlot a bénéficié grandement du greffage. Alors pourquoi le greffage ? On a en tête peut-être qu'il y a ce puceron américain qui s'appelle Phylloxera qui a attaqué la vigne européenne à la fin du 19e siècle. Et la parade a été de greffer nos cépages sur des vignes américaines pour l'en protéger.
Parce que les bois américains, et eux connaissaient le Phylloxera que nous ne connaissions pas, puisque le Phylloxera venait des États-Unis et les bois américains avaient, c'est une sorte de mutation, en tout cas, c'était protégé naturellement, avaient fini par
c'était être immunisé résistant. En quelque sorte.
Exactement. Ils étaient résistants.
Exactement, exactement. Et quand on a fait ça avec le Merlot, qui était un petit peu déprécié puisqu'il avait de la peine à faire des fruits. Il se fécondait très mal, il n'avait pas assez d'énergie pour faire des bébés, si vous voulez. Donc quand on l'a greffé, et ça c'est le professeur Alain Carbodeau qui a émis cette hypothèse que je trouve assez fascinante, quand on fait une greffe, ben comme quand on se fait greffer un organe ou autre, eh bien le flux ne passe pas comme il faut, donc quand on a une greffe entre un plan européen et américain, il y a un bourrelet qui se forme et la sève ne passe plus comme il faut. Si elle ne passe plus comme il faut vers les racines, ça veut dire qu'il y a plus de sucre en haut, dans la plante, il y a plus de sucre vers les feuilles et plus de sucre pour faire des fleurs qui fonctionnent. Et le Merlot, depuis qu'il est greffé, a une fécondation bien meilleure. Donc il produisait, il était précoce, il était bon. Après le gel de 56, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, on va planter du Merlot.
Et là, tout Merlot, enfin pas tout Merlot, mais il mûrissait de manière assez précoce.
C'est l'enjeu inverse de l'enjeu aujourd'hui pour les vignerons. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de freiner les sucres pour pas avoir des vins trop alcoolisés, pas tomber dans la surmaturité. Mais il y a encore 20 ans, l'enjeu, c'était quand même la bonne maturité, d'arriver à amener les raisins à bonne maturité. Le Merlot était de ce point de vue-là un cépage qui était très, très, très favorable.
D'ailleurs, vous rappelez l'étymologie de Merlot, et c'est ça qui est intéressant. Son nom vient de Merle, qui est ce passereau de jardin que l'on connaît bien, qui est d'ailleurs noir, hein, Merle noir. Peut-être qu'il y a une corrélation chromatique avec le Merlot. Mais il vient effectivement du fait que ce cépage est précoce. C'est le premier à être mûr pour les becs des merles. Ça, c'est une hypothèse qui, au-delà de son côté poétique, peut être tout à fait viable. Et le Merlot a été mentionné pour la première fois en 1783 dans un document retrouvé à Libourne, dans le département de la Gironde. Il s'appelait Merlot à l'époque, M-E-R-L-A-U, alors qu'aujourd'hui, Merlot, c'est ôté à la fin. Et il est mentionné que le Merlot fait un vin noir et excellent. Jérôme, est-ce que vous pouvez nous dresser le portrait en quelques mots du Merlot sur le plan de ce qu'il apporte en termes de structure et d'arôme dans un vin, et notamment dans ses assemblages bordelais?
Alors, le Merlot, c'est un cépage, comme le disait José, c'est un cépage qui apporte de la rondeur dans le cadre du bordelais.
Il est flatteur aussi.
Il est flatteur, en fait. Dans le bordelais, il y a quand même des cépages qui sont avec des puissances tanniques qui sont marquées, le Cabernet Sauvignon, le Caux, hein, d'ailleurs aussi, et le Cabernet Franc. Et le Merlot venait arrondir, enrober ça. Je suis parfois un peu mal à l'aise sur la description des arômes d'un cépage, tant c'est variable d'une parcelle à l'autre, véritablement. Moi, j'avoue qu'aujourd'hui...
Ça dépend du sol, ça dépend aussi de la manière dont le vin est vinifié.
Ça dépend du stade de maturité, ça dépend de l'année, ça dépend de tellement de choses. Mais moi, par exemple, je constate qu'à Bordeaux, en rive droite, quand je goûte des merlots qui me plaisent, il y a souvent ce registre un peu gelé de mûr qui me plaît beaucoup, qui est un arôme que j'aime beaucoup. Mais disons quand même, voilà, c'est un cépage qui apporte un certain confort en bouche. Alors, il y a beaucoup de gens qui le dénigrent aujourd'hui en disant, ouais, c'est lourdeau, ça manque de fraîcheur. J'ai envie de leur dire, c'est que c'est mal vinifié, les amis, parce que c'est un cépage extraordinaire. C'est un cépage. Bon, un cépage qui donne naissance à d'aussi grands vins que les grands Pomerol, on peut me raconter ce qu'on veut, c'est un très grand cépage. Après, il faut savoir le vinifier.
Le Merlot est un copain d'assemblage, notamment dans un certain nombre de cuvées de vins bordelaises. José Vouillamo, on le trouve également en monocépage. Le Merlot, pour lui seul, dans une bouteille, dans une cuvée?
Oui, l'exemple le plus célèbre et le plus onéreux, c'est Pétrus. Oui. Pétrus, qui est depuis 2010 en 100% Merlot. Il y a d'autres exemples qui existent. Un petit... On ne dit pas cocorico en Suisse, je ne sais pas comment on dit, mais...
Il y a le Tessin.
Oui, justement, les Merlots du Tessin, qui ont souvent tenu la dragée haute au Merlot de Pomerol en dégustation à l'aveugle. Ça, on ne le dit pas assez souvent.
C'est vrai.
Attention, on vous disait dans l'entame de cette émission que Jérôme Gagnès était particulièrement joueur. C'est à lui de dégainer une carafe. Et on va goûter ça ensemble.
On va déguster sur France Inter.
J'ai trouvé, c'est un cépage rouge.
Bravo, on ne peut rien vous cacher.
Vous avez versé dans nos verres à pied un vin rouge issu d'une carafe.
Exactement, j'ai découvert ce vin il y a 10 jours, 15 jours.
Vous n'en dites pas tellement plus quand même, parce qu'on veut l'avis de Justine, de
j'ai
Manon,
adoré, j'ai adoré ce vin.
De José. Alors, Justine, qui se lance pour un petit commentaire, une impression?
Couleur rouge foncé, assez sombre, et quand on met le nez au-dessus, ça semble chaleureux, donc je me dis qu'on est peut-être dans le sud, et en bouche, je trouve que c'est tout en finesse, que ça s'étire, et puis on a quand même une concentration, une gourmandise en fin de bouche, quand même avec un vin qui a du sérieux, je dirais.
Manon.
Qui est très sur le fruit quand même, à la fois au nez et en bouche. Donc voilà, il y a quand même cette fraîcheur. Moi, je trouve qu'il y a un côté aussi très cerise au nez.
Oui, c'est vrai.
Qui est très agréable.
José, vous en pensez quoi?
Ah bon.
Alors, je crois qu'avec Jérôme, on peut concourir pour le titre de champion du monde du plantage en dégustation à l'aveugle.
Ah ben, on fera des exercices ensemble, José.
Avec plaisir. Non, ça m'arrive régulièrement. Mais effectivement, il faut aborder un vin pour ce qu'il est. Donc au-delà de ce qui a été précisé, moi, le premier nez, je m'imagine que c'est l'un des cépages qui est dans le livre, sinon ce serait trop compliqué. Et je me suis dit, je sens quelque chose de cabernet. L'un des deux, je sens quelque chose de cabernet.
Intéressant. Alors attendez, vous nous confirmez qu'on a affaire à un monocépage.
Oui.
C'est-à-dire une cuvée de vin qui est faite avec une seule variété de raisin.
Oui, 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 tout à fait.
Reste à savoir, alors on peut raisonnablement dire qu'on est effectivement dans l'un des deux grands cabernets, je peux ou pas, Jérôme?
Oui.
Bon, maintenant, est-ce que vous penchez plutôt du côté de Franc ou du côté de Sauvignon ? Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, c'est compliqué. Hein. Oh là là.
C'est très difficile.
Ça rend humble, la dégustation
c'est
à la
très difficile. Mon éditeur m'a interdit de mettre une photo dans mon livre. J'avais voulu mettre une photo d'un poivron. Puis il m'a dit non, je ne veux pas une photo d'un poivron dans un livre sur les cépages.
Parce que vous.
Moi, je jouerais Cabernet Sauvignon si c'était la réponse à votre question.
Eh bien, elle a raison.
Bravo. C'est un Cabernet
Bravo,
Sauvignon.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Ben justement, le fait que je trouve qu'on sent que c'est un vin, enfin que c'est un cépage qui est capable d'apporter une certaine structure et ce sérieux, ce côté épaulé, même si ici il est magnifique, tout en finesse, c'est assez incroyable pour un Cabernet Sauvignon. Mais c'est ça qui me fait pencher de ce côté de la balance.
Mais alors elle a raison.
Mais oui, c'est tout à fait ça. Alors moi, je vous avoue que je l'ai goûté à l'aveugle, ce vin, je ne l'ai pas trouvé. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a fasciné, c'est que donc en fait c'est un Pessac-Léognan.
Ah oui,
pur Cabernet Sauvignon, Pessac-Léognan, le château Auberget, cuvée Tuileries 2022. C'est Paul Garcin qui m'a fait goûter ça.
Resituez-nous Paul Garcin.
Paul Garcin, le domaine Auberget, évidemment. Enfin, pardon, le vinificateur, le propriétaire du domaine Auberget. Et je suis sa production parce que j'aime beaucoup les vins qu'il fait. Je trouve qu'il a apporté beaucoup de choses à Bordeaux. Et il me fait goûter ça. Je ne trouve pas ce que c'est. Et j'ai beaucoup aimé le vin. J'ai beaucoup aimé le vin pour ce soyeux, ce que tu disais, Justine, ce soyeux de texture, cette élégance dans le tanin, une de la fraîcheur. Il y a quand même de l'enrobage et du gras parce que moi j'aime bien quand il y a de la chair dans le vin. Et je lui ai demandé comment c'était fait. Et c'est là où j'ai été littéralement sidéré. Donc ça s'appelle Cuvée La Tuilerie 2022 du Château Auberget en Pessac-Léognan. En fait, c'est, tenez-vous bien, parce que ça m'a sidéré, c'est une macération pré-fermentaire. Enfin, donc en fait, la fermentation n'a pas commencé. Il a mis les raisins dans la cuve.
Des Cabernet Sauvignon, donc.
De Cabernet Sauvignon. Il a fait macérer ça pendant 24 heures. Il a écoulé, donc il a séparé le jus des parties solides. Il a pressé. Et le jus, il l'a ensuite élevé pendant 12 mois dans une amphore.
Ah, waouh.
Donc vous imaginez qu'on a cette couleur... Ces jolis tanins et cette matière en 24 heures de cuvaison, là où, à Bordeaux notamment, on cuve plutôt entre 3 et 4 semaines. Mmh. Alors évidemment, l'explication, elle est multiple, on ne va pas revenir sur l'aspect technique aujourd'hui, mais c'est fascinant parce que je pense que ça ouvre une voie en disant, mais est-ce qu'on est obligé de cuver 4 semaines pour avoir pour obtenir la matière qu'on veut ? Est-ce qu'avec des millésimes comme 2022 qui sont vraiment mûrs, est-ce qu'aujourd'hui, ces millésimes ne nous permettent pas, en fait, de ne plus avoir à demander la matière au cépage ? C'est le cépage qui va la donner de lui-même, tout seul en quelques jours. Et avec des matières qui seront plus déliées, c'est-à-dire moins denses, moins asséchantes, moins dures, moins carrées, et donc des vins qui sont probablement à la fois des vins de garde, mais aussi des vins qui sont accessibles dans leur jeunesse. Et c'est un enjeu aujourd'hui, notamment de commercialisation. Ça n'est pas tourner le dos à la tradition des vins de garde bordelais que de s'imaginer qu'on peut faire des cuvaisons plus courtes pour avoir des vins un peu plus déliés et un peu plus accessibles dans leur jeunesse.
Rappelez-nous les références de cette cuvée étonnante.
C'est Pessac-Léognan, cuvée Tuileries 2022 du château Auberget. C'est un domaine qui est en biodynamie et Paul Garcin me dit que, notamment, il est persuadé que les travaux du sol qu'il entreprend depuis maintenant presque 20 ans au domaine ont permis aussi d'avoir ce type de raisin, d'avoir des maturités en fait, une belle maturité qui est un peu plus précoce qu'autrefois.
José Vouillameau, vous avez, il y a un instant, lâché un mot qui souvent désigne le défaut de la famille Cabernet, c'est poivron. Ce goût de poivron que l'on peut retrouver dans le Cabernet Sauvignon, mais également le Cabernet Franc, et qui, effectivement, quand on dit qu'un vin poivronne, c'est pas franchement lui faire un éloge. Ça, c'est lié à quoi ? C'est lié à une molécule particulière et c'est lié aussi à un stade de maturité du raisin ?
Oui, c'est lié à un ensemble de molécules qu'on appelle des pyrazines, au niveau chimique. On en trouve dans plusieurs cépages, mais particulièrement dans les deux cabernets. Quand ce sont des pyrazines qui sont à un niveau acceptable, ça donne une complexité au vin. Quand ça domine, quand ça sent vraiment le poivron vert énorme, bah c'est simplement que soit on a
cette dimension très végétale.
Très végétale, soit c'était pas assez mûr à la vendange, parce qu'on a mal travaillé, soit le cépage n'est pas planté au bon endroit.
On oublie la pyrazine, c'est...
Parce que oui, la pyrazine, en fait, dans ce que dit José, c'est quand c'est très 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 marqué, ça devient banalisant, ça devient dominant. Donc en fait, on perd le lien au lieu. Or, encore une fois, ce qui nous anime tous autour de cette table, ce sont des vins qui ont un fort lien au lieu d'origine. Mmh. Or, si on perd ce lien au lieu, quand on a quelque chose qui est tellement dominant, qui brise le lien au lieu.
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, c'est quoi les liens de parenté entre les deux ?
Le Cabernet Sauvignon, c'est un enfant du Cabernet Franc.
Mm-hmm.
Et comme je viens de dire tout à l'heure que le Merlot, c'est aussi un enfant du Cabernet Franc, qu'est-ce que ça veut dire ?
Que le Merlot est frère avec...
Demi-frère.
Il est demi-frère, oui, avec demi-frère. Le Cabernet Sauvignon.
Oui, mais ça marche comme chez nous, hein. Il faut s'imaginer les familles recomposées.
Incroyable.
Donc oui, le Cabernet Franc a donné...
Donc ça veut dire qu'un assemblage bordelais, c'est un bordel très incestueux quand même.
Oui. Mais très souvent, si on prend la trilogie, hein, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, on a le père et ses deux enfants. Et en général, dans une entreprise, quand entreprise familiale avec le père et deux enfants, souvent ça marche bien.
Oui,
il y a une entente. Voilà,
on va
en assemblage, souvent ça marche bien.
Mais alors, Cabernet Sauvignon, il y a Cabernet, j'ai bien compris, mais il y a également Sauvignon.
Oui, ça, c'était pas une surprise d'avoir le Cabernet Franc, parent du Cabernet Sauvignon, parce qu'on les a souvent confondus, ils partageaient un peu les mêmes noms, ils ont une morphologie similaire. Mais avec l'ADN, justement, ça, c'est la professeure Carole Meredith à l'Université de Californie à Davis, où j'ai appris la technique ADN sur les cépages, qui a découvert ça en 1997 avec John Barber, son doctorant, et c'était une surprise mondiale, puisque le deuxième parent, on a trouvé qu'il était le Sauvignon blanc. Alors tout le monde trouvait impossible qu'un raisin comme le Cabernet Sauvignon, si foncé, puisse avoir un des parents qui soit blanc.
Blanc, c'est ça, incroyable.
C'était absolument inimaginable à l'époque. Maintenant, on comprend beaucoup mieux comment fonctionne la couleur chez les cépages, ça ne choque plus personne, mais là, ça fait couler beaucoup d'encre quand même.
Donc, accouplement entre guillemets, hein, je mets 14 guillemets, entre Cabernet Franc et Sauvignon donne le Cabernet Sauvignon.
Exactement.
Sauvignon blanc, hein, évidemment.
Oui.
On aurait pu appeler ce cépage le franc blanc, c'est ça ?
Oui, il y a des gens qui se sont amusés à faire cette blague.
Et en un mot, il y a pas mal d'auditeurs qui nous le demandent. Comment ça se passe concrètement lorsque vous cherchez l'ADN et vous cherchez à retracer la généalogie d'un raisin, d'une variété de raisin ? On s'y prend comment en termes de manipulation scientifique ?
Oui, alors depuis 2019, ça va un peu mieux pour moi pour expliquer ça, parce qu'on a eu le Covid. Et pour détecter le Covid, on fait quoi ? On fait une PCR. Mmh. Tout le monde
PCR,
a déjà entendu.
Connu, ouais.
Le mot est connu, peut-être que la technique ne l'est pas, mais on utilise la même pour les cépages. C'est-à-dire que je la fais très brièvement. On va s'intéresser pas à l'ADN total, parce que ça coûte trop cher. On s'intéresse à une quinzaine de régions spécifiques. Et on a des moyens pour aller les amplifier. On les marque par fluorescence, on les mesure, et puis ça nous donne un profil. C'est des chiffres, hein. C'est une base de données avec des chiffres. Ce profil contient des chiffres qui sont le nombre de molécules, les bases de l'ADN, que contient le morceau qu'on a amplifié. Et ça nous fait un profil. On a chaque fois deux valeurs possibles. Pourquoi ? Parce que les chromosomes, comme chez nous, chez la vigne, vont toujours par pair. Mm-hmm. Donc dans notre profil, on a toujours un chiffre à gauche, un chiffre à droite. Puis si on a que ça nous fait une belle jambe. Il faut avoir une banque de données contre laquelle on peut confronter ces chiffres. Et puis si on trouve un match parfait, hein, c'est le Tinder des cépages, on peut dire, voilà, ce que tu as, c'est du Cabernet Sauvignon, c'est du Merlot. Enfin, scientifiquement, on le dit autrement. Scientifiquement, on le dit, il y a une chance sur 100 000 milliards que ce ne soit pas ça.
Ah, donc ça donne des probabilités.
Il y a beaucoup de statistiques derrière. Voilà.
Évidemment, c'est absolument passionnant. Dans un instant, c'est José Vouillamo qui, attention, préparez vos palais, nous fait goûter une cuvée à l'aveugle. Je peux juste vous dire qu'elle est issue d'un cépage qu'on n'a pas encore évoqué. Davina McCall de Wet Leg. On vous raconte et on déguste les grands cépages de France dont certains connaissent un destin mondial avec notre grand spécialiste José Vouillamo.
On va déguster
The menu, please.
François-Régis Gaudry sur France Inter.
C'est à vous de jouer, José, avec une cuvée que vous versez dans nos verres. Là encore, on a affaire à une cuvée rouge. Simplement, la bouteille a sa chaussette. À vos palais, à vos nez. Justine Knapp, Jérôme.
Alors, c'est un rouge qui est relativement corsé. Il y a beaucoup de fruits. Je connais un petit peu les cépages suisses. Un tout petit peu. Et j'ai une petite hésitation, en fait, entre deux cépages qui n'ont rien à voir.
Alors, ne dites rien pour l'instant. Justine.
Je trouve que le nez, il est très floral. Un nez que j'adore, avec une grande délicatesse de fleurs. Et en bouche, on a ce toucher froid. Enfin, un toucher où je sens que... on est peut-être dans un... On est plutôt dans une zone septentrionale, des tanins qui sont à ce stade encore saillants, mais qui viennent juste à pisser.
Ouais.
C'est très bon, très fin.
Vous vous aventurez ou pas? Parce que vous disiez, c'était quoi votre hésitation, Jérôme? Il y a le crachoir, hein, je tiens à préciser. Nous crachons les vins que nous buvons.
Il y a une dimension florale qui pourrait me rapprocher un peu d'un cornalin. Mais je ne retrouve pas le reste.
Oui, moi, je pensais... La première gorgée me menait en Suisse aussi, mais sur le cépage...
Ça pourrait être un gamay.
Je me mouille, moi.
Bah alors, je peux déjà vous dire que c'est l'un des cépages rouges, d'abord, qui est français.
Ah oui, donc ça peut pas être un cornalin.
Oui, qui est français et qui est dans les 12 que nous avons cités au début de cette émission.
Moi, donc,
vous
en avez
peut-être de la plaque.
Une Syrah de Suisse. C'est possible.
Ah, c'est
bravo.
Bravo.
Justine est en train de plier le match. Je veux pas dire, mais...
Une match.
Bravo. Je réapplaudis, Justine.
Bravo.
Syrah. Syrah, oui. Mais Syrah de Suisse, parce que oui. C'est vrai que la Syrah, on a l'habitude de la voir beaucoup dans la vallée du Rhône, c'est un des cépages rouges rois, notamment de la vallée du Rhône septentrionale.
C'est d'Alexandre de
Lettra,
en plus.
On retrouve la Syrah en majorité dans les appellations Côte-Rôti, Crozes-Hermitage, Cornas, Hermitage, Saint-Joseph, et là vous nous apportez une Syrah de Suisse.
Oui, bien entendu, j'allais vous titiller un petit peu, c'est Syrah de la cave des Amandiers,
oui.
D'Alexandre de Lettra, qui est absolument brillant comme vigneron. La Syrah Letaz, qui est un parcellaire et qui fait partie du fleuron de sa cave, et il a écrit derrière « Esprit du granit ». Donc on est dans le vignoble de Fuy, pour ceux qui connaissent un peu le Valais. Le Valais est essentiellement calcaire, sauf la région de Fuy qui est sur granit. Et c'est volontairement que j'ai pris une Syrah suisse. Pourquoi ? Parce que dans cet ouvrage où je parle de la Syrah, vous avez une page entière dédiée à une dégustation qui a eu lieu en 2007, organisée par le Grand Jury européen du vin, où les meilleures Syrah du monde, millésime 2000, ont été comparées. Et les quatre premières places ont été trustées par des vins suisses. Alors on est dans la vallée du Rhône, mais la vallée du Rhône supérieure, donc on fait des Syrahs. Supérieure.
Alors, certains ont prêté, au Syrah une origine orientale en provenance de la ville de Shiraz en Perse. D'autres ont imaginé que l'empereur romain Probus l'avait rapporté de Syracuse. Bon, tout ça, c'est faux.
C'est faux parce qu'encore une fois, grâce à l'ADN, on sait depuis l'année 2000, grâce au Californien, Carol Meredith, déjà mentionné, et puis l'équipe de Boursicot à Montpellier, eh bien on a trouvé les parents naturels de la Syrah. Ce sont des parents plus ou moins inconnus du grand public, puisque l'un d'eux, c'est un cépage rouge qui s'appelle Duresa, qu'on trouve en Ardèche et dans la Drôme. Et puis l'autre, c'est la Modeuse Blanche de Savoie. Et Haute-Savoie, qui n'est pas une mutation de la Modeuse noire, c'est un cépage à part entière. Donc on a découvert sa parenté, elle vient d'une région entre la Savoie et l'Ardèche, c'est-à-dire l'Isère, et c'est là qu'on trouve les plus grandes expressions historiques de la Syrah, que sont Côte-Rôti et Hermitage.
La parole est à Justine Knapp, et on va voir que dans la généalogie de la Syrah, il y a un rapport avec le cépage que vous mettez en avant.
On va déguster sur France Inter.
José Vouillamo, vous écrivez qu'à côté des variétés célèbres, la France regorge de cépages moins connus, de cépages dits modestes, un terme que vous considérez comme dépréciatif. Nous partageons non seulement cet avis, mais aussi une affection pour un cépage, demi-sœur de la Syrah, cépage autochtone des Savoyards, le rouge du pied des montagnes. Ça vous dit quelque chose ?
L'amandeuse.
L'amandeuse, effectivement. Et cette parenté avec la Syrah, on la comprend quand on goûte. Donc l'amandeuse, c'est un vin pourpre, floral, parfois une touche de violette, des arômes de poivre, de fumée. Le romancier du 19e, Henri Bordeaux, a dit « c'est un vin qui n'agite pas le tempérament ». Et c'est vrai qu'elle est digeste entre 10 et 12 degrés, longiligne, avec cette élégance froide. Et en même temps, elle a de la mâche, de la pulpe et un potentiel de vieillissement incroyable. Ses rouges sont capables de grands. La preuve tient en une rencontre. Michel Grisard, vigneron retraité, une référence qui a énormément œuvré pour légende. Le patrimoine savoyard et pour l'amandeuse.
Président du Centre d'Empélographie Alpine, Pierre Gallet.
Voilà, exactement. Michel Grisard m'avait d'abord écrit par message « L'amandeuse a été ma vie ». Chez lui, à Frétrive, on a les Bauges dans le dos, la vue de la Chartreuse jusqu'au massif de la Lozière. En entrant, il y a l'odeur d'un jasmin en pot, le bruit de l'horloge sur pied et ses anciens millésimes de mondeuse. Michel Grisard, il a commencé à faire du vin en 1983 avec un hectare de mondeuse, c'était celui de son père. Et lui, le père, il avait en plus des vaches, des céréales, du tabac qui séchait dans les granges. Et ce tabac, ce parfum de feuilles qu'on retrouve un peu par hasard dans le nez de vieux millésimes. Son père croyait à la mondeuse comme un grand vin. Michel Grisard l'a prouvé. Un petit bruit s'élevait dans le vignoble. Et si le problème n'était pas le cépage, mais la façon de le travailler, et si la mondeuse pouvait retranscrire les terroirs, si elle pouvait grandir dans le temps avec des élevages longs à partir de raisins bien mûrs, concentrés grâce à des rendements faibles. En fait, la mondeuse, c'est un peu comme un fruit sauvage hyper productif qu'il faut calmer pour qu'elle se révèle, calmer à la vigne, puis avec du temps en cave et en bouteille. Et c'était pas du tout le tempo dans la région entre 70 et 90. Les domaines étaient prisonniers de la saison de ski. Il fallait produire beaucoup et vite, vendanger tôt sur les pistes en décembre. Et ça a tué la réputation du cépage. Un vin de musette, même pas bon à mettre dans les sauces. C'est ce qu'ont reçu les premiers à considérer l'amandeuse en partant la vendre. Des phrases qui ont 40 ans, mais toujours coincées quelque part. On se demandait si on verrait le virage un jour, m'avaient dit les vignerons Béatrice et Louis Magnin. Et dans cette race, on trouve désormais tout un héritage de formidables mondeuses avec des expressions très différentes.
Ah oui, alors, et d'ailleurs, il y a un très beau carnet d'adresses que vous avez préparé à consulter sur franceinter.fr à la page On va déguster, chère Justine. Quelques exemples.
Entre 20 et 30 euros, biodynamie, des mondeuses tout en finesse, des mondeuses légères, Karma 2024 du domaine des Albatros, soyeuse et diffuse, ou Instant présent 2024, domaine des Orchis, macérée quelques jours à peine. Et donc là, c'est cette cuvée qui est macérée quelques jours à peine dans un profil de blanc, c'est une merveille. Et dans un tout autre style, des mondeuses profondes comme celle du domaine de Chevillard, toujours déliées, envoûtantes de pivoine, patinées par des élevages de plusieurs années. Mathieu Goury et Guillemette Renard emmènent la mondeuse là où elle est prête à boire, dans la lignée du travail de Michel Grisard, même si on peut bien sûr laisser vieillir les bouteilles. Et justement, pour finir, Michel Grisard nous offre le plus délicieux des enseignements empélographiques, une mondeuse 97, 30 ans, le vin a presque 30 ans, il a gardé sa couleur, son fruit, il est saisissant de vitalité, d'harmonie, de finesse, c'est un vrai souffle, un grand vin.
Ouais, c'est très 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 joli vin ça, vraiment.
Ça c'est un sacré cadeau, hein. 97, Michel Grisard, une mondeuse qui prouve à quel point ce cépage peut se bonifier dans le temps.
José,
c'est un vrai trésor. Merci à mon ami Michel de nous avoir gratifié de cette perle. Et effectivement, là on a des notes, on dit souvent sur la Syrah qu'elle sent le bacon. Là j'ai du bacon, après 30 ans. Et petite anecdote, avec un ami savoyard, Franck Merloz, qui se reconnaîtra, on avait fait une petite battle de mondeuses savoyardes et suisses. On avait monté le trophée international de la mondeuse. Michel Grisard avait participé pour savoir qui allait gagner. Et en conclusion, on s'est dit qu'un vin de mondeuse devait attendre au moins 10 ans avant d'être bu.
Entièrement d'accord.
À quelle sauce va nous manger Manon Fleury ?
On va déguster sur France Inter.
Quand on parle de grands cépages, on pense souvent aux plus célèbres, Chardonnay, Pinot. Mais pour moi, un grand cépage, c'est surtout celui qui réussit à transmettre un lieu et une intention. Et justement, j'avais envie de parler de vin, mais de vin en cuisine et de comment on l'utilise. parce que les sauces au vin, ce sont vraiment des monuments de la cuisine française. Et ce sont des recettes que j'adore faire au quotidien parce qu'elles apportent énormément de gourmandise au plat. Mais elles accompagnent la plupart du temps des viandes ou du gibier que je ne cuisine pas souvent. Donc je me suis posé une question assez simple. Comment est-ce qu'on peut faire une sauce au vin rouge avec du poisson? Parce que normalement, quand on pense poisson, on pense vin blanc. Parce que c'est plus léger, moins tannique. J'avais envie d'essayer autre chose et de travailler le vin rouge en sauce pour accompagner le poisson. Ce qui est intéressant dans la sauce au vin rouge, c'est l'acidité et la texture obtenue quand on fait réduire la sauce. La solution que j'ai trouvée pour apporter de la rondeur, c'est de mélanger le vin rouge avec du vermouth, qui est un vin macéré avec des plantes amères et souvent des épices. C'est très aromatique et légèrement sucré, ce qui permet de contrebalancer les tanins et l'astringence du vin rouge. Chez Dathil, on sert cette sauce avec de la lotte, qui est un poisson blanc, et la recette est assez simple. On commence par lever les filets de queue de lotte et en retirer la peau. Vous pouvez bien sûr demander à votre poissonnier de le faire, en lui demandant de bien récupérer l'arête centrale de la queue de lotte et de compléter avec d'autres arêtes de poisson, car, comme vous le savez, il y a très peu d'arêtes sur la lotte et vous en aurez besoin pour réaliser un fumet qui est la base de la sauce. Ensuite, on prépare une saumure avec de l'eau et du gros sel. On la fait chauffer et on la laisse refroidir, puis on y plonge les filets pendant 15 minutes. Ça raffermit la chair et ça enlève l'excédent d'eau. On les rince bien à l'eau claire et on les sèche à l'aide d'un torchon bien propre. Pendant ce temps, on commence le fumet qui est la base de la sauce. On fait torréfier les arêtes au four à 180 degrés avant de les mettre dans une casserole et de recouvrir d'eau. On laisse cuire pendant au moins une heure à petit frémissement. On filtre le fumet pour enlever tous les morceaux avant de le remettre sur le feu pour le faire réduire jusqu'à ce qu'il ait une texture nappante et légèrement épaisse. On découpe ensuite les filets de lotte en portions de 120 grammes. On chauffe une poêle presque fumante avec un peu d'huile d'olive. On met la poêle ensuite à feu doux et on saisit la lotte sur toutes ses faces, mais sans coloration. On finit ensuite la cuisson au four à 180 degrés pendant environ 8 minutes. Pour la réduction de vin rouge, j'ai pour habitude au restaurant de récupérer tous les fonds de bouteille de vin rouge, et c'est aussi ce qu'il y a de plus économique à la maison, mais vous pouvez très bien décider d'utiliser un grand cépage, comme moi j'aurais choisi le Banyuls ou le Carignan par exemple, pour apporter une vraie structure et typicité à la sauce. Vous allez ensuite faire réduire le vin pour en consacrer toutes les saveurs, tout en permettant de faire évaporer l'alcool. Le vin rouge apporte la structure, les tanins, le vermouth apporte le côté assez aromatique, épicé et doux. En mélangeant les deux, on obtient une sauce assez puissante, presque comme une sauce de gibier, sauf que là, elle sert à accompagner du poisson. Pour finir, on mélange le fumet ensuite avec la réduction de vin et de vermouth, on monte la sauce au beurre en ajoutant des petits morceaux de beurre froid tout en fouettant, on assaisonne avec un peu de fleur de sel, un peu de vinaigre de cidre, on sert la sauce avec la lotte taillée en médaillon à la sortie du four. J'avais envie de faire un accord avec cette lotte, mais on n'a pas le temps ce matin. Je voulais juste mettre en avant le vin de Maëlys Bernard, qui est du domaine Zerwijn, pour sa cuvée JPP3, qui rassemble trois cépages emblématiques du Jura, le Poulsard, le Pinot Noir et le Trousseau, voilà, qui fait un accord merveilleux sur cette lotte au vin.
Et alors,
rouge.
Quel plat, c'est délicieux, avec une sauce soyeuse et d'une finesse profonde.
Il y a de la profondeur et de la finesse. C'est
extraordinaire. José Vuillamo, vous allez nous faire déguster. Alors, après cette émission, malheureusement, on arrive à la fin.
Oui.
Je suis vraiment désolé, mais alors, un cépage. On va jouer l'aveugle et puis on donnera la solution la semaine prochaine. C'est vraiment une bouteille d'un vin et d'un cépage auquel vous êtes particulièrement attaché. Je rappelle le titre de votre livre, Grand cépage d'origine française. Grand cépage français, pardon.
D'origine française,
absolument. Histoire, généalogie et vin, c'est vous, José Vuillamo, qui le signez aux éditions Favre. Vraiment hautement recommandable pour tous les vignerons qui nous écoutent.
C'est un super bouquin de vulgarisation.
La semaine prochaine, on va déguster, vous sert sur un plateau, sa 10e masterclass en public et la grande signature de la gastronomie qui passe sur notre grill. C'est Stéphanie Lequelec. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.